Merci de nous rejoindre sur Radio Kapi. Congolais de l'étranger reçoit ce jour M. Junior Simba Badila, Congolais qui vit à Londres depuis 14 ans. Bonjour Junior.
Bonjour Julie Ngala.
Tu es parti de Kinshasa depuis 14 ans, donc tu vis à Londres. Tu es un ancien de l'IFASIC, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Tu es allé t'installer à Londres d'abord pour raison d'études, c'est ça?
En fait, j'ai quitté le Congo, Kinshasa, en début 2001. J'ai fini à l'IFASIC à l'époque. Et puis, j'ai passé 3 ans pendant mes études à l'IFASIC. J'ai passé 3 ans, j'ai jonglé entre les deux rédactions, le palmarès et domaine Congo. Mm-hmm. Et bien que j'avais passé mon stage académique à la RTNC où mon défunt papa et à son âme a passé 40 ans. Mais j'avais préféré la presse écrite parce que pour moi, la presse écrite, c'était une meilleure école. Donc ça, ce sont les 3 ans que j'avais passé au Congo, à Kinshasa, dans le cadre du journalisme, avant de voyager pour aller en Europe, disons précisément ici au Royaume-Uni. Mais avant aussi de venir ici au Royaume-Uni, et j'avais passé quelques temps à Tunis, en Tunisie, où j'étais allé pour le compte du journal Le Palmarès à l'époque, couvrir les festivités du pouvoir du président Ben Ali, ça c'était en 2001. Mm-hmm. Et c'était avant mon retour au Congo, à Kinshasa, où il y a eu l'assassinat ou la mort du feu président Laurent Désiré Kabila. Mm-hmm. Et c'est par après, j'ai décidé, en fait, les circonstances qui sont réunies pour que j'y sois aujourd'hui, au Royaume-Uni et précisément à Londres.
Et à Londres, tu as pu poursuivre les études en licence toujours de journalisme.
Effectivement, Julie, quand je suis venu ici au Royaume-Uni, le journalisme, c'est ce que je savais faire. Et je n'avais pas d'autre option, je ne connaissais pas d'autre profession. Alors, je me demandais comment est-ce que je devrais continuer ma carrière de journalisme ici. C'était difficile à cause... c'était un défi d'abord, le défi de la langue, les défis sur le plan culturel, les pays que je ne connaissais pas du tout, et, mais j'ai tenu à y arriver. J'ai passé, je dirais, j'ai passé une année et demie à ne rien faire. Quand j'étais au Congo, j'étais professionnellement actif sur le plan professionnel et puis sur le plan académique. Mais si en Angleterre, j'ai passé une année et demie de galères où je ne travaillais pas, j'ai bénéficié de l'allocation sociale de l'État, et puis à un moment donné aussi ma famille m'assistait, mais pour moi c'était vraiment une galère. J'ai cherché par tous les moyens comment est-ce que je pouvais reprendre ma carrière de journalisme. Mm-hmm. Alors j'ai trouvé l'anglais en général, l'anglais d'un citoyen sympa, le système pour l'intégration était déjà en place, et le système académique, on m'a conseillé de recommencer mes études ici, notamment. J'ai fait les collèges, le certificat des collèges, avant d'aller passer mes 3 ans de degree, comme on dit. Degree, c'est l'équivalent de la licence. Mm-hmm. D'abord en journalisme, la première année c'était en journalisme, et puis le reste, la deuxième année, c'était en media production.
En dehors de la difficulté liée à la langue, quelle autre difficulté à laquelle tu as été buté à l'arrivée en Angleterre?
C'est d'abord la culture. Tu sais, quand tu viens d'un pays qui est étranger, tout est étranger. Hein. Les citoyens du pays sont étrangers à ta culture, qui est étranger à leur culture. Il n'y a pas que la langue, mais il y a aussi la manière de vivre, la manière d'être, par exemple. Et moi, quand j'étais au téléphone, je me rappelle, quand j'étais au téléphone, j'ai crié, je parlais au téléphone, j'ai crié, mais les gens me prenaient peut-être pour un violent. Ou quand je voyais quelqu'un que je connaissais à la rue, j'ai crié, mais c'était hors de leur contexte. Et souvent aussi, quand on était dans des champs et pour aller acheter quelque chose, ou s'aligner pour entrer dans le bus, parfois, j'ai respecté pas les normes culturelles. C'était difficile, c'est par après où j'ai appris comment le bon sens d'ici, comment lier ma culture à celle de la culture anglaise, en fait. Ça, c'était un peu le défi, à part le défi de la langue. Ce qui est important, un réel défi d'intégration, c'est d'abord la langue, mais aussi c'est un défi culturel aussi. L'intérêt culturel, c'est savoir comment vivre dans un pays étranger, adopter leur manière de vivre. Et ça a été aussi une galère, on l'a dit. Et c'est une galère non seulement pour moi personnellement, mais je pense que c'est une galère pour tout citoyen étranger désirant vivre dans un pays d'accueil, autre que les siens.
Par rapport aux études, vous disiez tout à l'heure que vous avez passé d'abord une année, en fait, une année en journalisme. Dites-nous, est-ce que les notions sont universelles en journalisme ?
Les notions sont universelles. Vous savez, les cinq questions, les cinq questions en journalisme, en français, en anglais, hein, ça tourne autour de ça. Mm. Mais en matière de formation, c'est tout à fait différent. Il y a une formation différente, d'abord sur le plan de la recherche. Mmh. Moi, j'ai passé 3 ans de recherches, qui étaient des recherches intenses, où on vous met pratiquement dans les contextes. Directement, la première année, on vous met dans les contextes. J'ai passé 3 ans à BBC Radio, où vous apprenez la production sur tous les plans, la production audiovisuelle, et aussi, vous apprenez aussi la production de blogs, où... vous ne pouvez pas être journaliste seulement à la radio ou journaliste à la télévision. Vous êtes journaliste complet, du début à la fin. C'est-à-dire, on vous envoie couvrir un événement à Guatemala, on vous donne votre appareil téléphone, votre appareil cellulaire, ou on vous donne des appareils nécessaires. Vous êtes tout seul pour aller couvrir un événement.
Et vous êtes bien équipé.
Du blog, magazine, oui. Oui, en tout cas, pendant ma formation, vous êtes bien équipé comme toute université britannique, et où tout est là. Il y a une radio scolaire et une radio, une télévision scolaire, et la radio académique, pardon, la radio et la télévision académique travaillent en collaboration avec des chaînes de télévision et de radio locales, notamment BBC, ITV, et parfois... On voit aussi des étudiants aller passer leur temps à Al Jazeera ou bien d'autres médias sur place. Donc pendant ma formation, j'ai passé d'abord 6 mois à BBC et par après, où BBC m'a recruté, où j'ai commencé d'abord comme, on dit, production assistant. J'étais comme un assistant en production audiovisuelle. Et puis... la chaîne de la radio locale BBC où j'étais dans une province, la Luton, m'a confié une tranche de 15 minutes. C'était juste une émission en anglais, mais la chaîne m'a confié une tranche de 15 minutes en français où j'amenais le public, l'audience francophone, africaine, à pouvoir parler de leurs problèmes en fait.
Tu t'es plus habitué à la radio alors qu'ici, tu préférais travailler à la presse écrite.
La radio pour moi, c'était facile. Pourquoi ? Parce que j'arrivais quand même à parler à l'époque. Hein. En tout cas, j'ai commencé à m'exprimer en anglais. Mais l'écriture en anglais, c'était difficile pour que je puisse à l'époque. Je me rappelle entre 2008 et 2011, pour que je puisse écrire un article complètement en anglais, c'était difficile. Alors j'ai choisi la voie qui était facile pour moi pour y entrer dans l'industrie médiatique, broadcasting, comme on dit en anglais, pour y entrer, c'était un accès facile pour moi, la radio. Et par après, j'ai passé 3 ans, je disais, 3 ans, et après, en 2011, il y avait, quand le monde occidental a été secoué par la crise financière, l'Angleterre aussi, le Royaume-Uni n'était pas épargné. Alors, il y avait des coupes budgétaires au niveau des services publics. Pour BBC, il y a un service public. Il y avait des coupes budgétaires et certaines émissions ont souffert, notamment la mienne. Et c'est par après où j'ai demandé de l'aide au niveau du gouvernement si je pouvais m'y engager à pouvoir tenter une aventure, à lancer ma propre radio Internet, ce qui a été fait en 2011, en 2012. J'ai pu lancer... ma propre radio, Donc, la radio, pour moi, c'était un moyen facile de pouvoir rentrer dans l'audience britannique, en fait, par rapport au Congo, comme tu l'as dit. Mmh. Bon, j'étais dans la presse écrite, mais ici, pour moi, la radio, c'était facile.
En 2012, vous avez donc lancé votre propre radio, cette radio destinée à la communauté noire anglophone. Donc, c'est ça, hein?
Voilà, voilà. En fait, en 2012, comme je l'avais dit tantôt, j'ai lancé cette petite aventure et cette radio s'appelait à l'époque Africa UK Radio à l'époque. Et pourquoi? D'abord, je n'ai pas souligné pourquoi j'avais lancé cette radio. Mm-hmm. J'avais senti ce besoin de la communication au niveau de mon audience quand j'étais à la radio BBC. Juste après la fin de notre émission sur BBC, j'ai rencontré des gens de ma communauté africaine, que ce soit anglophone ou francophone, dans ma petite ville où j'habitais, où j'habite aujourd'hui, où ils me demandaient carrément où on était devenu avec l'émission, parce que l'émission réunissait en fait cette communauté. Ils venaient, les membres de la communauté venaient régulièrement et dans mon émission assister, partager leurs événements culturels. C'est là où j'ai senti qu'il y avait un besoin. Mmh. Et ces besoins au niveau de cette audience, il fallait le combler. Et pour les combler, c'était aussi un défi majeur. Le défi majeur, c'était de pouvoir mettre en place un médium, une radio pour servir cette communauté. C'était en théorie, mais en pratique, c'était extrêmement difficile de pouvoir convaincre les pouvoirs publics, de pouvoir convaincre la banque. C'était une radio communautaire où ils devraient acheter des matériels mm-hmm. pour pouvoir lancer cette radio. Mais Dieu aidant, aujourd'hui, nous sommes là. Ça va faire bientôt 5 ans au mois de novembre où la radio sert aussi bien la communauté francophone que la communauté anglophone. Et quand j'ai réalisé que la radio marchait aussi bien que mieux, alors j'ai décidé, j'ai proposé à quelques amis journalistes congolais résidant ici en Grande-Bretagne de pouvoir ouvrir une chaîne de télévision YouTube qui s'occupe uniquement de la communauté congolaise. Et la chaîne sur YouTube s'appelle ici London TV, où on réalise des interviews, notamment des élites congolaises sur le plan politique, culturel.
Est-ce que tu as été soutenu aussi par les Congolais qui vivent à Londres?
C'était difficile. Le soutien vient de différents moyens, en fait. Il y a le soutien d'abord sur le plan moral, le soutien sur le plan physique. D'abord, je remercie ma famille et ma femme aussi. Ça, c'est le premier soutien que j'avais reçu sur le plan moral et même sur le plan financier. Il y avait des nuits blanches. Il y avait parfois des jours où je ne passais pas la nuit à la maison, mmh. où il fallait mettre en place un business plan, comme on dit, un plan d'action qui devrait être accepté. C'est ça le soutien, en fait. Mais je ne m'y attendais pas trop au soutien de ma communauté, parce que d'abord, ma communauté, par rapport à Kinshasa, ici, les réalités sont tout à fait différentes. Les gens ne comprennent pas trop comment ça marche. Vous, qui vous avez un plan et essayez de convaincre cette communauté de pouvoir vous soutenir, ça va faire un peu trop. Je voulais pas trop delay mon projet. J'ai directement joué sur le soutien immédiat qui est autour de moi. Et aussi, en parlant de ma communauté congolaise, au début, je tenais à ce que la radio soit une audience particulière, c'est-à-dire, comme on dit, une audience niche, mm-hmm. une audience congolaise. Mais j'ai remarqué les difficultés parce que j'ai fait un sondage avant de lancer cette radio. Mm-hmm. Le sondage a été soutenu au niveau de l'université et le sondage a conclu que par rapport à l'étude du marché, la radio serait beaucoup plus mieux suivie par la communauté anglophone plutôt que par ma communauté congolaise, parce que en fait, les médias ou la radio à l'époque, maintenant les habitudes ont changé, n'étaient pas trop ancrées dans leurs habitudes.
On sait comment, depuis un temps, ça se passe ici, télévision, radio, les réseaux sociaux et tout, et il y a n'importe quoi qui passe. Maintenant, il y a n'importe qui publie, n'importe qui est devenu journaliste, qui informe et qui confirme même certaines informations. Comment vous les faites, vous? Parce que sur YouTube également, il y a n'importe quoi qui passe.
Une question pertinente, hein, Julie. En tout cas, merci pour ça. Je suis associé avec ça, avec des collègues qui sont des professionnels en journalisme aussi. Ils étaient au Congo, des collègues congolais. Ils étaient au Congo. Ils ont travaillé avec des mainstream médias, comme on dit. Ils ont travaillé avec Al Jazeera, avec ITV au Congo. Mm-hmm. Ils ont travaillé avec AFP ici. Ils ont lancé Vox Africa ici. Mm-hmm. Et moi-même, je suis de la formation et de la profession journalistique. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. On fait un effort pour se démarquer, en fait, de ce qui est populaire aujourd'hui. À faire allusion à ça, c'est quelque chose aussi. Nous, on cherche vraiment à se démarquer, à être vraiment unique, hein, à appliquer les principes du journalisme. Et voilà, ça, c'est la méthodologie journalistique, hein, pour tout professionnel. Alors, sur les plans moyens utilisés, alors, on utilise tous les moyens nécessaires, notamment les réseaux sociaux. Et nous avons un studio sur place ici à Londres où on loue fréquemment. Mais nous sommes assez rares, hein, au studio. Nous sommes sur le terrain. Mmh. C'est comme aujourd'hui, il s'est passé quelque chose à Londres. Il y a l'un de nos journalistes qui était sur place pour aller couvrir l'événement. Et alors, on essaye de nos mieux pour être vraiment professionnel, respecter les principes du journalisme, la déontologie et journalistique, parce que nous-mêmes, la radio, en fait, la télévision, et les membres de l'Union nationale des journalistes britanniques, où, en tout cas, souvent, nos contenus sont surveillés et sont surveillés à la loupe, en fait. Donc, on nous tenons compte, nous sommes vraiment sérieux en matière des principes de déontologie journalistique. Alors l'audience, c'est l'audience congolaise, en fait. Nous avons aussi, hein, sur ce plan, remarqué qu'il y avait un besoin pressant. Moi-même, j'ai rencontré pas mal de professionnels congolais ici, en Angleterre. Je suis souvent en contact avec des professeurs d'université congolais qui sont ici, des médecins, qui souvent expriment aussi leur désarroi, hein, vis-à-vis de la manière dont certains... entre guillemets, nos confrères couvrent des événements, que ce soit sur le plan congolais ou international. C'est pourquoi j'ai remarqué ces besoins. Nous avons décidé de lancer ces télés YouTube. Vraiment, on essaie d'être professionnel. Et ces télés YouTube, c'est ici, London TV. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Twitter. Et bien voilà, et ça fait bientôt plus d'une année que nous existons.
Est-ce que tu penses tenter cette aventure également à Kinshasa, au Congo, pour ouvrir une radio communautaire?
Pour le moment, c'est pas encore... Merci Julie, hein, c'est une question vraiment pertinente encore. Il y a eu pas mal de souhaits, de questions aussi. Les gens nous ont demandé si c'était aussi le même projet de pouvoir mettre ça à disons, exporter ces produits au Congo. Mais pour le moment... En tout cas, je ne pense pas trop que nous sommes tentés à cette aventure. Vraiment, nous ne sommes pas tentés à cette aventure. Vous savez, c'est aussi un autre défi, hein, rentrer au pays. Nous savons, c'est une obligation morale. Hein. Mais ben, je ne vois pas aujourd'hui nous tenter cette expérience et à cause de... des difficultés énormes qui prévaut actuellement liées à l'instabilité politique, liées à certains facteurs où il sera difficile pour nous de pouvoir concrétiser ces projets aussi facilement et avoir des soutiens comme nous l'avons ici en Angleterre. C'est un projet peut-être à long terme.
Et pendant tous ces temps, tu as pu également te marier, tu as préféré rester dans ton mandat du journalisme, si je peux le dire comme ça. Tu t'es marié à une femme aussi journaliste, une ancienne de l'ISTI également, aujourd'hui père des 3 enfants, et je t'ai pris de passer les salutations à la famille également. Et comment ça se passe en famille avec tout ça, papa journaliste, maman également? J'espère qu'à la maison vous ne suivez pas que les infos, hein.
Oui, effectivement, je lui dis, ma femme est une ancienne de l'IFACIC, Soleil Badila, et que j'aime bien. Voilà. Elle m'a rejoint en 2004 et nous avons aujourd'hui 3 ans. Et mais heureusement pour elle, hein, je dirais, elle n'a pas voulu tenter la même expérience professionnelle que moi, parce qu'elle a vécu des moments difficiles avec moi quand j'ai continué, je continue toujours, hein, ce qui est vrai, à faire mon chemin dans le journalisme. Alors, elle fait autre chose. Elle est étudiante aujourd'hui. Elle fait la psychologie, la psychologie sociale, et sera peut-être dans quelques 6 mois, 7 mois comme assistante sociale au ministère de la Santé ici. Mais ensemble, on parle de nos expériences, on partage et me soutient dans ce que j'ai fait, parce qu'elle a passé son temps à la RTNC2. Elle était présentatrice d'une émission sportive. Alors, en tant que journaliste, elle aussi, de formation et de profession, et qui est vrai, ensemble, hein, on partage, on discute, elle me soutient, elle me conseille parfois. Donc, elle fait partie d'une équipe de l'ombre, de rédaction, d'une équipe de rédaction dans l'ombre. Et avec les enfants, pourquoi pas, parfois, il n'y a pas que du journalisme, hein, à la maison. Moi, j'ai 3 enfants, et ma fille a 12 ans, et c'est vraiment une vie active d'être parent professionnel, non seulement en Angleterre, mais en Europe. C'est sur le plan social, ça demande trop de temps, et voilà, donc, et nous deux, d'être dans le journalisme, mais avec des temps fous qu'on connaît, je pense pas qu'on aura le temps de pouvoir aider nos enfants à pouvoir grandir normalement selon les standards.
Alors, parce que tu es aussi en contact avec les Congolais qui vivent à Londres, ou en fait en Angleterre, si je t'ai demandé de nous faire un portrait du Congolais de là, comment il se présente ?
Oh, je dis, tu sais, la diaspora congolaise en Europe, non seulement en Angleterre, mais en Europe, regorge des compétences, hein, dans tous les domaines. Moi, ça fait mal de voir les gens pouvoir fustiger la diaspora, et puis, bon, voilà. La diaspora c'est ci, la diaspora c'est là. Je dis, moi je côtoie des Congolais d'ici, même d'autres pays européens, qui regorgent de talents et compétences dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines. Et on parle du pays, ils parlent du pays. Et avant-hier, j'étais avec quelques concitoyens, l'un est pharmacien, l'autre est médecin ici. On parle du pays. Les désirs, parfois, c'est mettre leurs compétences au service du pays. Même si l'adaptation aux réalités locales reste un véritable défi, cette volonté-là, il manifeste, hein, de pouvoir retourner au pays afin que le pays puisse bénéficier de leurs compétences. Mais le souci, c'est quoi, Julie? C'est rentrer au pays, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est une obligation morale. Je ne vois pas un Congolais qui pourrait prendre ce risque, hein, un Congolais du Royaume-Uni prendre ce risque, démissionner d'un emploi, je dirais peut-être de 30 000 dollars par an pour gagner 500 dollars par an. Là, c'est vraiment un risque énorme. C'est ça le souci, en fait. Hein. C'est ça le souci. Le souci sur le plan. Sur le plan de la santé, sur le plan de couverture médicale, je dirais, sur le plan éducatif, sur le plan de la stabilité, je dirais pas politique, hein, mais de l'insécurité. Ce sont là les facteurs qui font assez que certaines compétences ne puissent pas regagner le pays, en fait.
Merci beaucoup, Junior Simba Badila, d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Je rappelle que tu vis à Londres depuis 14 ans, journaliste de l'IFASIC, mais tu as pu poursuivre les études de l'autre côté, jusqu'à t'organiser à ta façon, toujours dans le journalisme. Alors, un mot avant de finir cet entretien.
Je dirais, vous savez, Julie, souvent nous avons des questions des amis, connaissances, famille, qui cherchent à tout prix à venir en Europe. Moi, je dis, l'éducation, le système éducatif sur tous les plans au Congo est tel qu'il est, mais le plus important pour ceux qui tenteraient peut-être la même expérience, c'est pouvoir améliorer leur niveau éducatif au Congo. Et je sais, les opportunités, hein, ne sont pas trop offertes au Congo par rapport à d'autres pays, notamment où je vis, le Royaume-Uni. Et je dirais que pour tous ceux qui peut-être chercheraient à tenter cette expérience, à pouvoir s'améliorer sur le plan professionnel et puis sur le plan académique, pouvoir se mettre au niveau. Tu sais, je suis souvent le site de l'ambassade britannique au Congo, où il y a, je crois, il y a un appel d'offres de bourse pour l'université ici. Mais quand tu vois les critères exigés, moi je suis ici, ce sont des critères énormes qui nécessitent parfois des défis énormes sur place au Congo. Moi je ne savais pas, et une fois ici en Angleterre, je serais en face de tels critères où on vous met à défi, vous devez vous mettre à défi. Et tu vois, c'est très important pour tous ceux qui tenteraient une pareille expérience. Et aussi moi, je dirais, l'Angleterre est devenue ma deuxième partie. Hein. L'Angleterre m'a, le Royaume-Uni m'a tout offert. C'est ce que j'ai pas pu gagner au Congo. C'est le Royaume-Uni qui m'a offert. J'ai un statut social stable. Je suis marié, super d'enfants. Sur le plan professionnel, le Royaume-Uni m'a suivi. Donc pour moi, le Royaume-Uni, c'est un pays où il m'a tout donné.
Merci encore une fois, Junior.
Merci, Julie. Voilà.